Bonsoir Pierre Veille.
Bonsoir Charline et à demain à 17h. Bienvenue dans ce 18-20, première page de ces deux heures d'information, le journal. Avec Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Plus de 4000 plaignants, mais finalement la justice ne leur donne pas raison à propos du Levothyrox, ce médicament pour la thyroïde. Le fabricant Merck a changé la formule au grand dam des patients, mais il l'a fait dans les règles, dit le tribunal aujourd'hui. Une attaque violente dans l'une des prisons les plus sécuritaires de France, Condé-sur-Sarthe. Attaque terroriste, dit la ministre de la Justice. Un détenu a poignardé deux surveillants, il est retranché dans une unité de la prison. Carlos Ghosn va pouvoir sortir de prison après avoir payé une caution au salon de l'auto à Genève. On ne parle que du patron déchu de Renault-Nissan. Nous irons aussi au nouveau centre de cybersécurité de Huawei. Le groupe de télécom chinois accusé d'espionnage s'installe en plein cœur du quartier européen à Bruxelles. Et puis au défilé Chanel, l'ultime collection dessinée par Karl Lagerfeld a ému. Des nuages demain, le point météo à la fin de ce journal avec Elodie Calac.
Et dans Un jour dans le monde à 18h15, la campagne électorale en Israël. Benjamin Netanyahou peut-il perdre alors qu'il est menacé d'être inculpé pour corruption? L'universitaire Jean-Pierre Filius sera notre invité. Il publie aux éditions de La Découverte « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». 19h20, au téléphone sonne, la réforme de l'assurance chômage, les pistes du gouvernement pour faire des économies, bonus-malus pour sanctionner les CDD, indemnisation en baisse pour les cadres, plus généralement, quelle base de calcul pour l'indemnisation chômage? Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
France Inter.
Amélie, c'est l'une des dernières grandes affaires sanitaires, le Levothyrox.
Ce médicament pris par des malades de la thyroïde dont la nouvelle formule a provoqué des effets secondaires insupportables pour plusieurs milliers de patients. Plus de 4000 d'entre eux ont assigné en justice le laboratoire Merck, son fabricant. Ils viennent d'être déboutés. Le tribunal d'instance de Lyon considère que Merck, quand il a modifié le médicament, a agi dans les règles et de concert avec les autorités sanitaires. Compte rendu d'audience avec Christophe Vincent.
Aucun triomphalisme affiché de la part de Merck, mais les représentants du laboratoire lyonnais avouent leur satisfaction, à l'image de Florent Bensadoun, directeur juridique.
Le jugement qui a été rendu aujourd'hui décide de confirmer que Merck a agi lors de ses actions de communication dans le strict respect de la réglementation applicable. C'est ce que nous répétons depuis le début, c'est ce que nous avons plaidé à l'audience du 3 décembre, et c'est ce qui nous conduit à dire que ce jugement-là est un jugement tout à fait fondé et équilibré.
En face, le coup est rude pour les 4113 plaignants, dont certains étaient présents au tribunal. Béate Barthez préside l'association toulousaine Vivre sans thyroïde. Elle ne renonce pas.
On est fatigué, mais on reste combatif. On ne va pas lâcher parce qu'on le doit aux malades. Ça fait 2 ans que ça dure et Merck vient de publier un communiqué où ils disent « Merck a toujours entendu les malades ». Mais à les avoir entendus plaider au tribunal, on ne dirait pas parce qu'ils n'ont jamais eu un mot pour les malades. Et ils étaient là pour dire « on a tout fait ». Ils ont fait tout ce qu'a prévu la loi. Mais ils auraient dû faire plus.
Des victimes qui vont sans doute faire appel. Au tribunal d'instance de Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et par ailleurs, l'affaire fait l'objet d'une plainte contre X au pénal, instruite par le pôle santé du tribunal de grande instance de Marseille.
Une attaque violente dans l'une des prisons les plus sécurisées de France.
Un détenu a poignardé deux surveillants ce matin au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, dans l'Orne. Il les a blessés grièvement et s'est retranché dans l'unité familiale avec sa compagne. Pour la ministre de la Justice, pas de doute, c'est une attaque terroriste. Jérôme Jadot, on vous rejoint devant la prison de Condé-sur-Sarthe.
Oui, vu de l'extérieur ici, le principal signe qu'il se passe quelque chose dans la prison. Ce sont trois hélicoptères posés sur les pelouses devant les hauts murs d'enceinte blanc. Deux hélicoptères militaires, un hélicoptère de secours. On distingue aussi un camion de pompiers à l'intérieur et quelques policiers qui sécurisent également les lieux. Il y a un peu moins de 2 heures, certains de leurs collègues cagoulés sont arrivés en renfort. On a vu également une équipe de démineurs. On sait que le détenu a indiqué qu'il détiendrait des explosifs. Il est toujours retranché avec sa compagne à l'intérieur d'une unité de vie familiale, l'équivalent d'un petit appartement où les prisonniers peuvent rencontrer leurs proches dans l'intimité. Selon une source syndicale, il refuserait pour le moment de collaborer avec les hommes du RAID. Une équipe d'intervention régionale de la pénitentiaire est également sur place. ainsi que le procureur de Paris en charge des dossiers terroristes, Rémi Hetz. Les locaux attenant à cette unité de vie familiale où se trouve le couple ont été évacués en vue d'une éventuelle intervention.
Jérôme Jadot en direct de Condé-sur-Sarthe avec Laurent Lucas au moyen technique. Merci à vous deux. Et des surveillants ont débrayé dans plusieurs établissements à la suite de cette agression, notamment à Fleury-Mérogis en région parisienne. Les terroristes français dans la ligne de mire de la coalition en Syrie après la mort de Fabien Klein, la voix qui revendiquait les attentats du 13 novembre 2015, tué par un tir de drone il y a quelques jours. Son cadet, Jean-Michel Klein, aurait également succombé à un obus de mortier, cette fois deux jours après, c'est son épouse qui l'affirme à l'AFP. Lui a enfin parlé à son procès. Mehdine Mouche, jugé pour les quatre assassinats au musée juif de Bruxelles en mai 2014. Il affirme être innocent, avoir été piégé et renvoie à la thèse défendue longuement par son avocat lors des deux mois d'audience. Un complot pour abattre deux des victimes qui seraient, selon lui, des agents du Mossad. Une thèse délirante, selon les parties civiles. Bruxelles, où le géant chinois Huawei tente de démentir les accusations d'espionnage qui l'entourent, lui et son réseau mobile 5G. Le groupe de Télécom inaugure aujourd'hui dans la capitale belge un centre de cybersécurité. Là, les opérateurs européens pourront tester les produits Huawei et se rassurer sur les risques de piratage brandis par les États-Unis surtout. Le groupe chinois s'installe en plein quartier européen, un choix audacieux, Quentin Dickinson.
Officiellement, il s'agit de faciliter les échanges techniques sur la sécurité des terminaux et des réseaux informatiques à l'aube de la 5G entre d'une part des professionnels belges et des institutions de l'UE et d'autre part les experts maisons chinois. Cet objectif est probablement louable et certainement flou, d'autant que la marque chinoise emploie déjà plus de 150 techniciens et commerciaux en Belgique et qu'il n'est pas clairement expliqué ce que ce centre apporte de plus. Plus sûrement, cette initiative fait-elle partie d'une vaste opération mondiale de redressement de l'image d'une entreprise, jusqu'ici peu portée sur la communication et qui a prospéré discrètement depuis plus de 20 ans à l'ombre des aides d'État de Pékin. Les soupçons de liens étroits entre Huawei et les services de renseignement chinois, qui pourraient accéder à volonté au système du constructeur où qu'il soit installé dans le monde, ne disparaîtront ni rapidement ni par la publication d'un simple démenti. Visiblement, Huawei l'a compris. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles.
L'américain Ford va finalement payer les 20 millions d'euros exigés par Bercy en France. Le plan social a été homologué par l'administration. Le site de Blanquefort en Gironde va fermer. 850 emplois supprimés. Le ministre Bruno Le Maire, très impliqué sur ce dossier, a salué le plan généreux et protecteur pour les salariés et le versement donc de 20 millions d'euros supplémentaires pour réindustrialiser le site, plus une somme pour la dépollution, pas encore précisée. La CGT dénonce une posture combative pour faire oublier que l'État n'a pas réussi à sauver l'usine.
Oui, dans le même temps, Amélie Perrier, le salon de l'automobile de Genève s'ouvre et plus que Ford, c'est de Carlos Ghosn que l'on parle là-bas.
L'ancien patron de Renault-Nissan est sur le point de sortir de prison après plus de 100 jours de détention au Japon. Le tribunal de Tokyo accepte la remise en liberté de Carlos Ghosn sous caution. L'ultime décision ayant été rendue tard là-bas, il devrait attendre l'ouverture des banques demain pour pouvoir payer sa caution et sortir. Un feuilleton judiciaire industriel aussi suivi de près au salon de Genève. Notre reporter en Suisse, Jérémy Lange, s'est rendu sur le stand de Renault.
Si vous regardez les résultats 2018, sans y revenir, on a montré qu'on était capable d'être résilient, même dans des situations de forte turbulence.
Turbulence, le mot est faible pour parler de l'affaire Carlos Ghosn. Quand on l'interroge sur le sujet, Thierry Bolloré, le nouveau directeur général de Renault, prend d'ailleurs beaucoup de soin à ne pas prononcer le nom de son ancien patron.
Toute l'entreprise s'est focalisée immédiatement sur la bonne marche de l'entreprise. Et j'ai passé énormément de temps personnel avec mes collègues de Nissan et de Mitsubishi à faire en sorte que toutes les équipes restent focalisées.
Vous tournez la page, Carlos Ghosn.
L'entreprise est gouvernée avec M. Senard comme président du conseil et moi-même comme directeur général. Et on avance comme ça. Donc le paysage est clair.
La saga judiciaire Carlos Ghosn, Yumika Wabata s'y intéresse de près. Pour cette journaliste japonaise spécialisée dans l'automobile, les Japonais sont divisés sur la possible libération de l'ancien patron de Renault.
Certains Japonais pensent que Carlos Ghosn a fait beaucoup de bonnes choses quand il était à la tête de Nissan. Mais au Japon, quand un politicien est arrêté, il reste au moins un an en prison avant son procès. Donc certains pensent au contraire que Carlos Ghosn devrait rester en prison pour le moment.
Renault comptait sur le salon de Genève pour présenter sa nouvelle Clio et faire un peu oublier l'affaire Carlos Ghosn. De ce point de vue, c'est raté. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
La voiture, encore faut-il le permis, un graal pour les plus jeunes, trop cher, trop long à passer. Alors le Premier ministre annonce des mesures aujourd'hui. Cela fait partie d'une série de réformes pour libéraliser ce qu'Édouard Philippe appelle les angles morts du pouvoir d'achat. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Alors le gouvernement veut mettre en place un comparateur du permis de conduire et finalement, après avoir fait entendre leur colère, les auto-écoles semblent plutôt satisfaites, Rémi ?
Les auto-écoles de proximité qui ont manifesté deux fois le mois dernier contre la réforme du permis de conduire, avec notamment l'apprentissage du code dans le cadre de l'éducation nationale, mais aussi contre la concurrence des auto-écoles en ligne sur Internet, celles qui affichent des prix cassés. Alors comme le coût du permis de conduire est flou, entre le forfait de base, en moyenne 1 150 euros, et le coût réel à l'arrivée, avec les heures de conduite qu'il faut rajouter, le Premier ministre propose donc un site Internet, un comparateur pour s'y retrouver. Il donnera les prix, mais aussi les taux de réussite de chaque école. Cette transparence, les auto-écoles assurent qu'elles y sont prêtes. C'est en tout cas ce que dit Patrice Besson, président du CNPA Éducation Routière. C'est la principale organisation professionnelle des auto-écoles.
On fait miroiter des prix d'appel de l'ordre de 750 euros. C'est ce que font les écoles en ligne. Sauf que c'est pour attirer la clientèle, malheureusement. C'est des prix d'appel exactement ce qu'explique le Premier ministre. Et au final, le permis papier rose en main, c'est entre 1600 et 1800 auto-écoles en ligne ou auto-écoles de proximité. Arrêtons de dire que l'auto-école de proximité est chère et que c'est pour ça qu'on met en place des auto-écoles en ligne.
Et de son côté, Ornicard, c'est une de ces auto-écoles. École en ligne assure qu'elle n'a rien à cacher non plus et persiste. Ses prix sont 35 à 40% moins élevés. Alors pour trancher ce débat, la plateforme du gouvernement pourrait être mise en ligne très rapidement. Dans les 3 mois, c'est ce qu'assure Matignon.
Rémi Brancato, merci à vous. Et parmi les autres annonces du Premier ministre pour redonner du pouvoir d'achat, des mesures pour réduire le prix des pièces détachées automobiles. Pour le logement, les syndics risqueront à l'avenir des amendes s'ils ne jouent pas le jeu de la mise en concurrence. Et à propos de la santé, Édouard Philippe veut lever des restrictions pour vendre davantage de médicaments sur Internet. Pas de problème de pouvoir d'achat pour lui. L'homme le plus riche de France s'appelle toujours Bernard Arnault. Le PDG de LVMH reste en tête du classement Forbes avec une fortune estimée à près de 67 milliards d'euros. Il est 4e à l'échelle mondiale. Le rendez-vous du luxe à la française. C'était le défilé Chanel ce matin sous la verrière du Grand Palais à Paris. Émotion à son comble. Hommage au créateur emblématique de la maison de couture, Karl Lagerfeld, disparu il y a 2 semaines. C'était son ultime collection dans une mise en scène hivernale, paysage immaculé et chalet enneigé, comme un paradis blanc pour l'homme aux éternelles lunettes noires. Impression des invités à la sortie au micro de Delphine Evenoux.
Magnifique, vraiment très émouvant.
C'était une station de ski reconstituée, c'était absolument sublime.
C'était un moment unique, on tourne une page. Un nouveau chapitre qui commence.
Les tenues magnifiques, énormément de looks. Chanel, quoi. C'est le seul qui fait ça.
Sortie du défilé Chanel avec Delphine et nous, on termine par une autre forme d'art au cinéma pour un film attendu autant par les fans de Marvel que par les féministes. Captain Marvel sort demain en France et le 8 mars, journée des droits des femmes pour les Américains. Une date choisie avec soin car le message du film est clair. Place aux super-héroïnes. Corinne Pellissier, c'est la première fois qu'une femme issue de l'univers Marvel se retrouve à la tête d'un blockbuster.
La voie ouverte, jusqu'à présent par le concurrent DC Comics, n'avait pas vraiment séduit Brie Larson, qui a longtemps refusé d'incarner l'équivalent d'une Wonder Woman à la sauce Marvel. La comédienne oscarisée voulait des gages, une équipe de production féminine et un rôle surtout de femme forte et audacieuse qui ne devrait rien à son physique ni à personne.
Je ne suis pas celle que vous pensez.
Ainsi est née sous ses traits Carol Danvers, pilote de jet façon Top Gun dans les années 90, période où les groupes de rock féminins explosent et où les agents secrets du SHIELD à New York n'ont pas encore constitué l'équipe des Avengers.
On ne mesure pas l'ampleur de la menace. Nous n'y arriverons pas tout seuls.
Un grand bond dans le temps pour découvrir les origines de cette super-héroïne en quête d'identité et raccrocher surtout les wagons de son personnage à la galaxie Marvel. Car en dehors des fans, le grand public a tout à apprendre de ce Captain Marvel, au logo rouge et bleu surmonté d'une étoile et à l'appui son sort du commun. Un modèle de courage et de détermination pour les jeunes filles qui ne manqueront pas de s'identifier à cette super-héroïne dans l'air du temps, très en phase avec ses convictions féministes.
Captain Marvel en salle demain en France et aux États-Unis. Un défi a été lancé pour collecter des fonds et permettre à un maximum de petites filles d'aller le voir. Girl Power, on a dit.
C'était le journal d'Amélie Perrier. Amélie Perrier qu'on retrouve dans un gros quart d'heure, dans un jour dans le monde, sous les radars de l'actualité, au sommaire.
Ouais, ce soir, on va parler du chef de la junte militaire en Thaïlande. Il écrit des chansons pop. L'Afrique du Sud est horrifiée par la vidéo d'une chanteuse star qui se fait tabasser par son petit ami. L'Australie, elle supprime les visas pour tous les étrangers coupables de violences contre les femmes. Et puis les îles Cook veulent changer de nom.
À tout à l'heure, Amélie, la météo.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Avec nous, Élodie Calac de Météo France. Bonsoir Élodie.
Bonsoir à tous.
Un temps perturbé demain.
Oui, alors sur le sud-est, ce sera très nuageux, parfois pluvieux, surtout sur les Cévennes, avec du vent jusqu'à 90 km à l'heure. De nouvelles pluies gagneront aussi l'ouest et le nord du pays. Alors d'abord de la Vendée vers la Normandie et les Hauts-de-France le matin, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, au centre, aux Ardennes l'après-midi, en passant par la région parisienne. Le vent sera encore de la partie, il sera même très fort sur les Pyrénées dès cette nuit, jusqu'à 100 à 120 km à l'heure attendu. Et puis les pluies, elles finiront par gagner également tout le sud-ouest demain soir, mais aussi le massif central et la Bourgogne.
Et il fera plus doux.
Souvent 5 à 12 degrés le matin, l'après-midi 13 degrés à Lille, à Brest, 15 à Paris, 17 à Lyon et à Marseille, 20 degrés pour Strasbourg, Limoges, et puis 22 à Biarritz ou alors à Montauban.
Merci Élodie.